France Info.
Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue dans les informés avec, comme vous le savez, comme tous les samedis, les correspondants de la presse étrangère en France. Au menu ce soir, Gabriel Attal en déplacement dans le département de la Manche, le Premier ministre qui veut tourner la page de la crise agricole sur fond, bien sûr, de campagne des européennes. Cette nouvelle manifestation en Israël pour la libération des otages, alors que l'espoir d'une trêve refait surface et que le Hamas vient de publier une vidéo montrant deux otages enlevés le 7 octobre, il y a donc presque 7 mois. La flamme olympique est de retour vers la France. Elle a quitté la Grèce à bord du bateau Le Bel MS. Commenté dans les autres pays, va-t-on désormais parler de sport au-delà de toutes les polémiques autour des JO, sécurité, logement ou encore transport. Et puis la fête des librairies indépendantes. Quelle place pour les librairies en France et ailleurs? Mesures politiques et économiques autour du livre, prix, taxes ne sont pas les mêmes partout. Dans le studio de France Info, pour commenter, analyser, débattre de tous ces sujets, Ana Navarro-Pedro, bonsoir.
Bonsoir.
Correspondante de la presse portugaise. Adeline Percept, bonsoir Adeline.
Bonsoir.
Correspondante de la RTBF à Paris. Richard Verli est là également, bonsoir.
Bonsoir Victor.
Correspondant Europe et France du quotidien suisse Blick. Et Henrik Bonnet, bonsoir Henrik.
Bonsoir.
Journaliste espagnol pour El Periodico. C'est parti pour une heure de débat. Tourner la page de la crise agricole, l'un des objectifs de Gabriel Attal, donc le Premier ministre en déplacement avec le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, à Pirou, dans le département de la Manche. Au-delà de l'aspect pittoresque de la foire au bulot, le chef du gouvernement a annoncé plusieurs mesures à destination des éleveurs et agriculteurs, 2 mois après leur mouvement de contestation. Gabriel Attal qui assure que le lien n'a jamais été rompu.
Le dialogue avec les agriculteurs et leurs représentants, il est continu et permanent. Depuis plusieurs mois maintenant, avec évidemment en première ligne Marc Fesneau, on est au contact des agriculteurs, on échange en permanence et surtout on travaille à des mesures concrètes pour nos agriculteurs. Il y a déjà eu une première série d'engagements que j'ai pris il y a maintenant plusieurs semaines, 62 engagements. Le président de la République a également annoncé des mesures et ce matin nous avons annoncé une série de 14 nouveaux engagements qui ont été travaillés avec les représentants des agriculteurs.
Et parmi les mesures annoncées, la présentation promise début mai de la version définitive du plan Ecophyto, de réduction des pesticides, de nouvelles aides à la trésorerie des exploitations, l'accélération de 100 projets de stockage d'eau ou d'irrigation. Concernant les millions d'euros de prêts pour les agriculteurs les plus en difficulté, il faut attendre d'en voir la concrétisation, dit sur France Info Christophe Chambon, secrétaire général adjoint de la FNSEA, le principal syndicat agricole.
Maintenant, il faut le concrétiser pour que ces agriculteurs en bénéficient rapidement sur leur exploitation. Vous savez très bien qu'une crise ne se termine pas aussi vite en claquant des doigts et en faisant des annonces. Aujourd'hui, la crise, il faut vraiment que ruisselle dans les cours de ferme tout ce qui a pu être annoncé depuis des mois.
Voilà, parmi les autres réactions syndicales, pas mal de réserves sur ces annonces. En clair, Adeline Percept, il y a les promesses et puis il y a le quotidien des agriculteurs.
Oui, effectivement. Alors sur les promesses, en tout cas, il me semble que le gouvernement fait beaucoup de promesses, surtout à la FNSEA, c'est-à-dire à une partie des agriculteurs. Et c'est vrai qu'il est difficile, à mon avis, de contenter tout le monde, tant le monde agricole et le monde rural est traversé par des radicalités très différentes, des quotidiens très différents. Quel point commun entre le céréalier de la Beauce et puis le tout petit viticulteur de l'Occitanie. Donc tous ces gens-là étaient quand même dans ce qu'on a appelé le mouvement agricole.
Et, les annonces sont trop globales du coup ?
Au final, je trouve que les annonces sont surtout en direction de la FNSEA et c'est ce qu'on a vu aussi au niveau européen avec le vote sur cette révision de la PAC qui oublie quand même un certain nombre de dispositions ou qui ajourne un certain nombre de dispositions qui avaient été prises pour des questions environnementales. Donc, je dirais que ça va dans un sens.
Richard Verli, il peut clore le chapitre de la crise agricole de cette façon, Gabriel Attal, des annonces et on n'en parle plus, au moins jusqu'aux européennes.
En tout cas, il s'y emploie. Et je trouve que quand même, il marque un point, il suit les dossiers. Il cite le nombre de promesses qui ont été faites, celles qui, selon lui, ont déjà été exaucées, les nouveaux engagements. Bref, on a vraiment l'impression d'un ministre de l'Agriculture bis. D'ailleurs, son ministre de l'Agriculture parle relativement peu. De ce point de vue-là, je pense que ça peut marcher. Il peut convaincre une frange de l'opinion qu'il s'est emparé du dossier et qu'il le suit. La difficulté, c'est de convaincre les agriculteurs. Parce que les agriculteurs, d'abord, ils ont des problèmes qui vont durer. Ces mesures, notamment les fameuses mesures de simplification, on a dit qu'un certain nombre de normes avaient disparu ou que les préfectures les avaient supprimées, mais ça n'a quand même pas l'air d'être le grand choc de simplification attendu. Et puis, il y a toute la question européenne. Et donc, le risque, disons-le, c'est quand même qu'une partie de la colère des agriculteurs se traduise dans les urnes par un vote pour le parti le plus anti-européen, qui est le Rassemblement National.
Anna Navarro-Pedro, pour revenir sur ce que disait Adeline Percept sur le fait que finalement Gabriel Attal ne parle qu'à la FNSEA. On se souvient qu'Emmanuel Macron avait promis de recevoir à nouveau les syndicats d'agriculteurs. Ce n'a pas été le cas. Finalement, Gabriel Attal qui vient sur le terrain parler un peu plus à tout le monde, c'est pour donner cette impression justement que son discours est plus large.
En tout cas, il faut qu'il essaye par tous les moyens de ne pas avoir un problème agricole à la veille des élections européennes, ça c'est sûr.
On verra bien.
Après, on verra bien. Donc, la mise en place des mesures va prendre son temps aussi. Et je suppose qu'il aura le bénéfice du doute auprès des agriculteurs. C'est vrai que la révision de la PAC à Bruxelles, cette semaine aussi, est l'avantage essentiellement les grandes surfaces agricoles en Europe. Il y a une petite mesure concernant les petites surfaces avec un allègement du contrôle administratif et des contrôles et des respects des mesures environnementales. Mais essentiellement, tout se fait au détriment des mesures environnementales. Et est-ce qu'on a vraiment répondu au problème des agriculteurs ? Est-ce qu'on a pris le taureau par les cornes comme il faut ? Ça reste à voir.
Et on va continuer d'en parler. On marque une pause. Le Fil Info, 20h10, Emmanuel Langlois.
Trois départements du sud-ouest contre 8 il y a quelques heures. La Dordogne, le Lot et le Tarn-et-Garonne sont maintenus ce soir en vigilance orange aux orages par Météo France. En Dordogne, 9000 foyers sont privés d'électricité. C'était le cas en début de soirée, en tout cas après des chutes d'arbres sur des lignes à haute tension et sur les rails également. Plusieurs trains ont été supprimés. L'alerte est valable jusqu'à 23h ce soir. En Espagne, et à moins de 48 heures de l'annonce attendue de sa décision, des milliers de sympathisants du Parti Socialiste se sont rassemblés ce samedi pour demander à Pedro Sanchez de ne pas quitter son poste. Le Premier ministre espagnol qui a dit en effet qu'il réfléchissait à démissionner après l'ouverture d'une enquête contre son épouse. De nouvelles coupures d'électricité en Ukraine, où le pays fait face aux dégâts d'une nouvelle attaque massive de missiles russes contre ses infrastructures énergétiques qui a endommagé cette attaque 4 centrales thermiques. Les autorités de Kiev affirment de leur côté avoir pris pour cible 2 raffineries en Russie avec des drones. Et puis la marche était encore une fois trop haute. Les Français s'inclinent pour la 13e fois de suite face à l'Angleterre, 42-21. Ce soir à Bordeaux, dans le tournoi des 6 nations féminins de rugby, devant plus de 28 000 spectateurs, un record. Les Anglaises, elles réussissent leur 6e grand chelem d'affilée. Du rugby encore, et le top 14, le Stade Toulousain qui s'impose 32-12 face au Racing 92. Bordeaux l'emporte à Bayonne 15-34. Lyon bat Pau 38-20 et Perpignan a surpris sur la pelouse de Montpellier 25-20. Castres enfin s'incline chez la Lanterne Rouge, Oyonnax 22-19 et s'éloigne d'une qualification en phase finale.
France Info. 20h, 21h, les informés, Victor Matet.
La crise agricole avec Gabriel Attal sur le terrain dans le département de la Manche. Aujourd'hui, sur France Info, la coordination rurale a dit ce samedi, c'est dommage d'avoir attendu 2 mois pour des mesures qui auraient pu être annoncées. Eh bien, il y a 2 mois, Henrik Bonnet, pourquoi le gouvernement, selon vous, a-t-il attendu ?
Oui, il a fait beaucoup d'annonces à la fin janvier, en février. Les annonces, elles ont été constantes. Après, je suis d'accord que c'est important aussi de suivre l'application de certaines annonces, parce que par exemple, un cas intéressant, c'est la loi agricole qui a été présentée à la fin mars et les débats à l'Assemblée nationale qui ont été bloqués et qui semblait que l'adoption, il pourrait être beaucoup plus compliqué de ce qu'il pensait le gouvernement au début. Donc, je suis d'accord avec mes collègues de que c'est, en fait, le gouvernement, il a été, on va dire, efficace par rapport au fait de fermer la crise agricole dans l'immédiat, mais c'est à voir qu'est-ce qui va se passer sur les raisons du fond. Est-ce qu'il va réussir à résoudre les raisons du fond Oui ou non? Parce que, par exemple, une grande question qu'il y avait derrière cette crise agricole, c'était la rémunération des agriculteurs. Et par rapport à ça, il semble que finalement, il n'y a pas de mesures énormes. Par exemple, aujourd'hui, ils ont annoncé par rapport aux retraites, le fait de comptabiliser les retraites à partir des 25 meilleures années. C'est une mesure intéressante, mais c'est pas une mesure
structurelle. Très critiquée par la plupart des syndicats.
Par exemple, donc, très critiquée, notamment. Donc, c'est pas une grande mesure, comme par exemple, il aurait pu être le fait d'établir des prix minimums, des prix planchers. C'est des mesures aussi très critiquées par certains syndicats, défendues par d'autres, mais qui auraient été une mesure au moins structurelle.
Adeline Percept, est-ce que l'idée de garder des mesures encore aujourd'hui, c'était peut-être de prévoir d'éventuels blocages et d'en garder un peu sous le pied, entre guillemets ?
Oui, je pense qu'il y a une stratégie d'annonce, parce que de toutes les façons, ils ne pouvaient pas débloquer la crise agricole d'un coup d'un seul, si je puis dire. Il y avait une telle colère, une telle émotion, on s'en souvient, dans le monde agricole, qu'il fallait prendre du temps pour aller sur le terrain. Gabriel Attal l'a fait, Marc Fesneau l'a beaucoup fait aussi, même s'il a été plus discret finalement. Donc il fallait prendre toute cette mesure et il ne pouvait pas tout annoncer en même temps. Ce qui est compliqué aussi dans ce timing des européennes, c'est que c'est vraiment le tapis rouge pour le Rassemblement National, qui essaye de capter l'électorat agricole comme il a capté un certain électorat rural. Au fil des décennies, j'allais dire, on voit les dernières législatives, par exemple, on a vu éclore des députés RN dans tous les départements ruraux autour de Paris, par exemple, l'Eure-et-Loire, l'Indre-et-Loire, le Loiret. Et au fond, Jordan Bardella y a vu quasiment du pain béni dans cette crise agricole. Donc, il a fallu aussi au gouvernement tenter d'être peut-être moins dans quelque chose de trop rapide et de suivre les dossiers et de continuer à être en contact permanent avec les organisations.
La crise agricole qui d'ailleurs existe partout en Europe, on l'a dit hein, déjà, dans chacun des pays d'ailleurs de nos invités. Où en est-elle en Suisse, Richard Verli, cette crise?
Alors la crise, elle portait surtout sur le revenu, sur les problèmes de revenus. Elle portait moins sur les questions administratives, la question de la simplification, et elle portait moins sur la concurrence étrangère. Vous savez qu'une des grandes revendications des paysans français, c'est que stoppe la concurrence, selon eux, déloyale au sein de l'Union européenne, puisqu'ils disent que certains pays de l'Union européenne, ils pointent par exemple l'Espagne, exportent vers la France des produits à des prix beaucoup plus bas. Donc le gouvernement suisse a dû faire des efforts, il a dû débloquer de l'argent. Pour l'instant, c'est calme, mais ce qui est sûr de toute manière, c'est qu'au niveau européen, on voit bien que structurellement, l'agriculture continue de perdre du terrain, que la profession s'inquiète parce que c'est une profession qui demande énormément d'investissements humains et matériels aujourd'hui, et que le revenu qui est en face ne correspond pas à cette somme d'efforts.
Ce sont les mêmes problèmes au Portugal, Anna?
Pas les mêmes problèmes qu'en France, parce que le Portugal a perdu beaucoup de sa production agricole depuis qu'elle est entrée dans l'Union européenne. Une grande partie des terres, des grandes terres ont été achetées par des entreprises de l'agroalimentaire espagnole qui produisent chez nous. Et puis nous avons de très petites surfaces, donc les questions sont un peu différentes, mais par exemple la question des revenus, la question des retraites, la question des aides familiales dans les entreprises agricoles sont primordiales chez nous aussi. Et puis la question principale, c'est de revenir à la souveraineté alimentaire, au moins une certaine capacité d'alimenter toute la population. Parce que si à l'autre bout de l'Europe, si un jour on est dépendant uniquement des importations et qu'il y a des soucis de transport, de production en Europe, on va être très très mal.
En Espagne, Enric Bonnet, on parle beaucoup en ce moment de Pedro Sanchez et de l'attente d'une possible démission. Il fera son annonce, on l'a entendu encore lundi. Qu'en est-il de la crise agricole? Il y avait eu aussi des manifestations.
Oui, il y a eu des manifestations à Barcelone, à Madrid, un peu des manifestations assez importantes. Là, c'est beaucoup calmé, beaucoup moins d'impact médiatique.
Il y a eu des mesures annoncées?
Très peu de mesures. C'était un peu l'une des particularités de l'Espagne, c'est que le gouvernement, il a annoncé assez peu de choses. Il s'est réuni avec les agriculteurs, le gouvernement national, aussi les gouvernements régionaux. Mais finalement, ils ont annoncé assez peu de mesures, ils ont insisté beaucoup par rapport à une autre question, que c'est vrai aussi, c'est que la réponse à beaucoup des problèmes des agriculteurs, c'est la réponse européenne. Et c'est vrai que, par exemple, aujourd'hui, on a entendu beaucoup d'annonces de Gabriel Attal, mais les grandes mesures avec lesquelles on devra affronter les grands défis de l'agriculture seront... C'est la prochaine Commission européenne qui devrait l'affronter, ou qui devrait l'affronter. Donc c'est un bel... Finalement, notamment, je pense, la question de comment l'agriculture peut affronter la transition climatique avec en accompagnant les agriculteurs, voilà, sans qu'il y ait une perte ni une disparition de l'agriculture. Mais ça, c'est une réponse probablement plus européenne que nationale. Et c'est vrai qu'en Espagne, les différents gouvernements, ils ont beaucoup insisté sur ça, ce qui était sincère, mais en même temps, c'était une manière aussi de mettre de l'argent sur ça. Après, c'est vrai qu'en Espagne, finalement, l'actualité, souvent, elle a été un peu comme ici en France. Maintenant et depuis quelques semaines, elle a été beaucoup plus centrée sur d'autres questions. C'est ce qui a fait qu'on a oublié un peu les agriculteurs. Et aussi, une autre question importante en Espagne, c'était qu'au début, c'était très centré sur la question de l'eau, des sécheresses historiques dans certaines régions, notamment à l'est de l'Espagne, comme la Catalogne, et des sécheresses qui se sont calmées un peu parce que depuis quelques semaines, il a plu. Donc, cette question de l'eau s'est calmée, même s'il reste une problématique qui reste.
Vous parliez de la réponse européenne, on se souvient de ces tracteurs à Bruxelles, à l'Intercept. Les tracteurs ne sont plus là, mais est-ce que les problèmes sont pour autant résolus pour les agriculteurs belges?
Non, et pas tous. Alors, ce qui est intéressant de voir en Belgique, c'est que l'agriculture est très disparate, et notamment côté flamand, on a vraiment des très grandes exploitations, notamment d'élevage de porcs, qui ont été soumis à des nouvelles règles environnementales. Et là, on voit que le parti d'extrême droite flamand surfe là-dessus pour être vraiment aux avant-postes de la colère agricole de ce côté-là. Et puis côté wallon, très sincèrement, c'est exactement les mêmes problèmes qu'en France. Vraiment. Et d'ailleurs, les agriculteurs ont beaucoup, ceux du Nord et les wallons ont beaucoup collaboré. Il y a eu beaucoup d'actions à la frontière. On est vraiment sur... Et puis le même type de réponse aussi. On attend aussi beaucoup de l'Europe.
Les Européennes.
Oui, mais on parle beaucoup de certains des mouvements écologistes et la gauche européenne, au Parlement même, qui vont faire un recours contre les mesures adoptées mercredi dernier pour changer la PAC. Donc, on va voir ce que ça donne. Ça risque de traîner un peu.